7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le travail va-t-il nous dévorer? Nous relançons ce débat entamé il y a quelques jours dans l'émission, mais il est vrai que notre programme avait été interrompu pour cause d'actualité. Or, vous étiez nombreux à réagir. On va donc parler de ce travail, de la pression des objectifs, de la perte de sens et de convivialité et des conflits éthiques et moraux quand on a l'impression que son travail va à l'encontre du bien commun, du sens moral. Comment est désormais perçu le travail et l'entreprise? Les voisins, les voisines, on attend vos témoignages. Est-ce que vous vous sentez globalement trop absorbé par votre travail? Et si oui, pourquoi? Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le WhatsApp. Alors comment notre travail a-t-il évolué ces dernières années? On va en discuter avec des professionnels de ce sujet. David Courpasson est en train de nous rejoindre. Il a eu un problème de transport en commun. Il est sociologue. Il a publié « Cannibal en costume, enquête sur les travailleurs du 21e siècle » aux éditions François Bourin. Nathalie Prussia-Collin est avec nous, psychologue du travail. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Vincent Binet-Truy, vous êtes directeur France de Top Employers Institute, qui est une société d'audit auprès des entreprises dans leur gestion du personnel. Bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Et vous nous direz quelles sont aujourd'hui les attentes des entreprises. Il y a comme quand même un vent de panique face aux mécontentements généralisé au travail. Reste à savoir ensuite si l'enfer est pavé de bonnes intentions et qu'on ne va pas plus loin, ou s'il y a réellement un virage qui est en train de s'amorcer. Il se trouve que sort aujourd'hui sur les écrans français un film très attendu du réalisateur britannique Ken Loach, Sorry I Missed You, Désolé je vous ai raté, et qui raconte l'ubérisation du travail et les livreurs donc de colis pour le commerce électronique. On écoute un extrait du film.
J'ai fait des tas de boulot. Bétonnage, plomberie, j'ai tout fait. Il y a toujours quelqu'un sur ton dos, tu vois.
On a du retard à rattraper, en route.
Je préférerais bosser tout seul, être mon propre patron.
Avant de commencer, clarifions quelques détails si tu veux bien.
C'est trop fou, je rêve.
Tu travailles pas pour nous, tu travailles avec nous.
Je suis payé à la visite.
Et vas-y, scanne-le.
Gagné.
Yes.
Ils suivent tous les colis, tu piges? Si t'en mets un dans l'abri de jardin, ils savent où il a tiré.
C'est ça qui décide qui reste en vie et qui meurt.
Vous pouvez prendre ce colis pour Monsieur Campbell?
Non, je préfère pas.
Je suis pas payé si je livre pas. Jamais j'aurais cru que ça pourrait être si dur.
Je te colle une nouvelle amende de 100 livres.
Tu prends en main ton destin. T'es partant?
Oui.
Voilà, c'est la bande-annonce version française du film du britannique Ken Loach, Sorry I Missed You, Désolé je vous ai raté. David Courpasson, Nathalie Prussia-Collin et Vincent Binet-Truy travaillent pour des plateformes de livraison. C'est le symbole du travail épuisant et qui vide de sens aujourd'hui, qui est vidé de sens, David Courpasson.
Oui, ce qui est extraordinaire dans ce nouveau système qu'on appelle la gig economy, c'est qu'on confond indépendance et autonomie. Je pense que quand on est aujourd'hui face à des gens qui disent qu'ils sont indépendants et qu'on peut y voir quelque chose d'émancipateur derrière, le problème de l'indépendance dans ces conditions-là, c'est que plus on est indépendant, plus on est seul. Plus on est seul, plus on travaille. C'est-à-dire qu'on ne décroche et on ne débranche jamais. Y compris parce qu'on est payé au lance-pierre, mais ça c'est une autre caractéristique. Quand on fait des livraisons à 2 euros...
Sauf que c'est central en fait.
Bien sûr, quand on fait des livraisons à 2 euros, il faut en faire un maximum. Et il faut faire celle du dimanche soir... qui rapporte un petit peu de bonus pour avoir 10 balles de plus, quoi. Donc effectivement, c'est une course sans fin.
La pression, elle est quand même très largement liée au salaire, Nathalie Prussia-Collin.
Totalement, avec la dangerosité que ça comporte aussi, puisque plus on fait des choses, plus on se met en danger. Je pense qu'on le voit très bien dans le film de Ken Loach avec l'histoire des PV, par exemple, des choses comme ça.
Et les amendes.
Les amendes, oui, c'est ça. Enfin, j'ai les PV, c'est les amendes, oui, effectivement.
Qui
sont à la charge, en plus, du salarié, ce qui est terrible. Voilà, il doit absolument, il est payé à la commande, à la livraison, et toutes les amendes lui incombent. Donc ça veut dire que le peu qu'il va faire pour gagner un minimum de salaire, même si elle est mode compensée du dimanche et tout ça, il va y avoir absolument une perte énorme. Et donc quelque chose qui démotive avec cette absence de reconnaissance et de vouloir toujours en faire plus alors qu'il ne gagnera pas forcément davantage.
Vincent Binetruy, vous qui travaillez beaucoup avec les entreprises, du côté des entreprises si on peut dire, toute la question aujourd'hui qui se pose, c'est finalement les entreprises disent mais c'est ce qu'ont voulu les consommateurs, cette société de consommation, consommer, être livré H24, les magasins ouverts le dimanche. Est-ce que c'est la réalité dans le fond ?
C'est un peu le revers de la médaille finalement de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à laisser cette possibilité aux personnes de pouvoir travailler quand elles veulent, de générer leurs propres revenus, etc., la contrepartie de tout ça, c'est quel va être l'impact pour le consommateur en tant que tel. Et pour revenir sur le film de Ken Loach, il y a une décision il y a un mois en Californie, où la Californie a pris comme décision de requalifier en tant que salarié des travailleurs indépendants de deux plateformes de conducteurs VTC que sont Uber et son Lyft. Et là, on a eu deux types de réactions. On a eu ceux qui s'en sont trouvés soulagés en tant que travailleurs indépendants, parce qu'ils étaient contents de passer salariés, de commencer d'avoir une couverture sociale, etc. Et puis, il y a eu des collectifs de chauffeurs indépendants qui se sont élevés contre cette décision en disant « Mais nous, OK, on est conscient de ça, on est conscient du fait qu'on n'ait pas de couverture sociale, mais en même temps, on fait le choix de pouvoir se travailler quand on le souhaite, générer les revenus que l'on veut, et de pas travailler pendant 3 jours, si on n'a pas envie de travailler pendant 3 jours, avec les conséquences que ça a, pour nos revenus, bien entendu. Alors que si on est salarié, on va nous demander de travailler à des horaires fixes, avec des salariés, on ne pourra plus faire d'heures supplémentaires, etc. Donc en fait, c'est très partagé.
Vraiment deux regards sur le monde du travail.
Deux regards différents.
Et puisque vous parlez d'un point de vue aussi qui est positif, je vous lis le message d'un auditeur, Jean-Denis, qui est à Paris, qui nous a posté ce message sur nos réseaux sociaux. Il nous dit, il y a deux types de métiers en France, vous voyez, pas qu'aux USA, les salariés qui n'en peuvent plus et font la gueule à leurs clients, sans doute pour permettre à l'entreprise de se développer et ainsi pérenniser leur emploi. LOL, hein, c'est-à-dire qu'il est évidemment assez ironique. Et les indépendants qui sont toujours heureux d'avoir encore plus de clients, donc de travail, et ne se plaignent pas en allant travailler avec 42 fièvres et une angine. Inutile de vous dire que je suis artisan et indépendant avec beaucoup de boulot et très heureux.
Oui, mais c'est très clair. Ça reflète bien finalement ce que j'évoquais. C'est qu'on a vraiment les deux aspects. Et puis après, il ne faut pas oublier également qu'il peut y avoir un impact pour l'entreprise. Si je reprends l'exemple de la requalification en salarié de ses collaborateurs, quid de l'avenir d'entreprises comme Uber et comme Lyft, qui du coup vont devoir répercuter ce surcoût probablement sur les usagers? Et au final, les avantages qu'y trouvaient les usagers vont s'annuler. Donc, avec potentiellement un risque de non-pérennité de ces organisations, puisqu'elles ont bâti leur business model sur cette organisation-là. Donc, je suis personnellement très partagé et je vois bien les avantages et les inconvénients du système.
David Corpasson, vous êtes moins partagé.
Je trouve que l'argument qui est donné là est tout à fait valable. Ce qu'on évoque jamais, par contre, c'est les conséquences extra-économiques de ce système, en particulier sur la vie sociale des gens. Je pense que... Alors moi, je n'ai pas eu la chance de voir le film de Ken Loach, mais je pense que dans le propos politique, en fait, sur la gig economy, il y a aussi l'idée que ce type d'activité, ce type d'indépendance, mutile la vie sociale. On n'a plus de temps pour rien. On n'a plus de temps pour ses enfants, on n'a plus de temps pour sa famille, on n'a plus de temps pour ses loisirs. Certaines personnes peuvent être très heureuses avec ça pendant un temps.
Si on regarde sur le long cours, sur l'histoire du travail par rapport au 19e siècle ou même au début du 20e siècle, on n'a jamais eu autant de temps libre et on parle bien d'une société de loisirs. Elle existe toujours, cette société de loisirs.
Et bien, pas partout.
Non.
Nathalie, tu veux peut-être...
Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est très paradoxal. Au final, on a du temps... Mais il y a quelque chose qui envahit, qui est très envahissant sur la charge de famille, en fait. C'est-à-dire de se dire que, comme il y a une pression au travail, c'est de se dire « je dois travailler pour ma famille ». On est dans quelque chose de l'empressement pour le travail et pour la peur des fins de mois. Je pense que c'est valable, y compris pour les cadres. Mais oui. Par exemple, le film dont on pourra parler après, qui est Ceux qui travaillent, travail.
Tout de suite même, hein, c'est l'histoire d'un cadre qui marche très bien.
Exactement.
Dans le fret maritime.
Exactement.
Et puis qui un jour, qui a un pépin avec un cargo.
Oui, et qui choisit, en fait, il prend une décision qui est terrible et qui va lui valoir son job, qui va lui avoir son emploi, parce qu'on va lui dire, on va prendre comme prétexte qu'il aura fait une faute professionnelle, or c'est parce qu'il est trop âgé et qu'on le paye trop. Cependant, cet homme est dans une addiction à son travail. Il ne sait rien de faire d'autre. Il n'existe pas en dehors de son travail. Il a une famille avec 4 enfants et voilà, lui fait partie exactement de ces personnes qui ont peu de temps pour être avec leurs enfants, avec ses enfants, avec sa femme, avec sa famille.
Alors c'est une fiction, hein, mais c'est vrai que le cinéma est quand
même un
puissant vecteur, le cinéma, pour faire prendre conscience des dérives du monde du travail. Revenons à la réalité. Je vous propose d'écouter l'histoire de Houda. Elle a tout juste 30 ans. Elle vient de démissionner d'une grande entreprise française dans le secteur des médias. Et elle a raconté à Alice Milo, notre reporter, la jungle dans laquelle elle s'est battue pendant presque 5 ans.
Donc j'étais embauchée en été 2015. Pendant quoi, une dizaine de jours, j'étais franchement aux anges. J'ai appris que j'allais voyager dans des conditions extrêmement bonnes, en première classe, logé dans des hôtels de luxe, tous les avantages que j'allais avoir, le gros salaire. En fait, je me suis dit, mais waouh, je suis en CDI, donc j'ai intégré à 27 ans cette entreprise. Quasiment mon premier job, j'avais passé qu'un an sur le marché du travail avant d'intégrer cette entreprise. Donc j'ai intégré l'entreprise en me disant, super. Alors, premier désenchantement, mon process d'onboarding, c'est pas extrêmement bien passé, en fait. Onboarding, c'est en gros quand on recrute quelqu'un, il y a tout un éventail de process d'accueil. Donc il y a quelqu'un qui est censé vous prendre sous son aile, c'est un peu un mentor, on a un carnet avec un petit stylo d'accueil avec des petits conseils à l'effigie de la boîte, on vous montre où est la machine à café, voilà. Par un espèce de micmac qui fait que la RH qui m'avait embauchée était enceinte et du coup était partie, m'avait pas été complètement remplacée, personne ne se rend compte que je suis là. Au niveau administratif, au niveau des ressources humaines. Première expérience de grosse boîte, je remarque rien. Je ne suis pas censée savoir à l'époque que je devais avoir un mentor, que je devais faire tout plein de rencontres pour m'installer dans mon poste, demander à tous les gens qui allaient travailler de près ou de loin avec moi de se présenter, de m'expliquer un peu leur travail. Au départ, je ne comprends pas du tout que c'est nécessaire. Plus tard, je comprendrai que c'est presque un acte de survie, en fait. Et c'est pour ça que ça fait partie de l'onboarding, parce que du coup, il faut faire ami-ami très vite avec les gens, surtout les personnes clés, qui sont un des hauts niveaux de responsabilité. C'est que quelques mois plus tard que je me rends compte qu'en fait, le fait de ne pas avoir vu tout de suite des gens, de ne pas avoir noué des amitiés avec les 14 bureaux qui étaient à mon seul étage, parmi les 3 étages avec lesquels je travaillais, ça allait me coûter très cher en fait. Voilà, je suis arrivée, beaucoup pensent que je suis une stagiaire. En fait, au bout de quelques temps, je commence à réfléchir stratégiquement. Je commence à repérer les personnes clés avec qui il faut voir être vu. D'ailleurs, la cantine, c'est un moment très intéressant dans la grosse boîte, parce que c'était un moment que je détestais. J'ai pas joué le jeu pendant plusieurs mois, mais pareil, ça m'a coûté très cher. À midi, en fait, à la cantine, bien que la nourriture soit dégueulasse, disons-le franchement, il faut déjeuner là-bas. Il faut éviter d'aller dehors, sauf si on est encore une fois bien accompagné. Mais il faut déjeuner là-bas parce que c'est assez sympa d'être vu en compagnie de bonnes personnes. Donc, il faut faire tout un travail préalable d'envoi de mail, bonjour, comment vas-tu, puis ensuite, l'horreur de ne pas se faire répondre et de devoir relancer, les sourires gênés quand on croise la personne qui ne nous a pas relancé dans le couloir. Bref, donc en tout cas, on gagne des points. Et donc, l'inévitable phrase, on se fait un déj, voilà. Et l'inévitable phrase en retour, ok, je suis dispo en septembre prochain, on est en mai, tu vois. J'ai une dispo, est-ce que je te cale le 20 septembre ? Bah non, en fait, va mourir, quoi. Moi, on est en mai, c'est vraiment une façon horrible de te remettre à ton statut de simple mortel, parce que c'est vraiment des coups stratifiés comme ça. Il y a une hiérarchie officielle, mais il y a aussi une hiérarchie officieuse. C'est comme un peu à l'école, il y a des gens populaires, des gens qui le sont moins, des gens, ce qu'on appelle dans les entretiens individuels, des gens à potentiel. Et ma grande surprise, en fait, en entreprise, c'est que le potentiel social de l'entreprise, c'est pas du tout le même potentiel social en dehors. C'est pas le même capital humain. Et en fait, c'est ça qui a été une expérience presque traumatisante. Et pour moi, à l'époque, c'est que ça a toujours été mon fort, moi, l'humain. Et ça m'a toujours réussi dans la vie, Par contre, ça m'a énormément coûté à l'entreprise. Un exemple très concret. Par exemple, je discute, je vous l'ai dit, avec tout le monde. Bah, je discutais avec les agents d'accueil. C'est un peu socialement, un peu touchy ce que je vais dire. C'est un peu complexe d'en parler, mais c'est une réalité. C'est que je discutais avec des agents d'accueil, je les voyais, je leur parlais 2 minutes, je connaissais les détails de leur vie. Bah, il y a un moment, quand j'ai commencé à m'installer dans l'entreprise, à monter en grade, à connaître des gens, j'ai vu que ça dérangeait un peu. Que je fasse des fois la bise à la personne de l'accueil ou qu'on fume une cigarette et qu'on parle, il y avait un truc qui passait pas. C'est des ajustements que j'ai dû faire qui sont super complexes. Quand j'ai vu que mon taux de ma cote de popularité était au plus bas, j'ai commencé à accepter beaucoup plus de déjeuners, à venir plus tôt, à partir plus tard, à faire plus de présentéisme parce qu'en France ça compte beaucoup dans les grosses boîtes, à être plus politique, à parler à des personnes plus intéressantes à qui j'avais pas envie de forcément parler, mais je me suis forcée à le faire. Je me suis calée sur le rythme de vie de mes collègues ou de personnes clés dont j'avais besoin pour débloquer des dossiers, donc m'arranger pour arriver en même temps qu'eux, quitte à arriver beaucoup plus tôt, m'arranger pour fumer des cigarettes avec eux, pour boire des cafés avec eux, et en fait ça a très bien payé. Donc j'ai réussi à remonter ma cote de popularité rapidement et de manière spectaculaire parfois, et c'est une réalité en entreprise, c'est qu'on peut pas se faire des amis des vrais. Et c'était vraiment usant pour moi de devoir mettre de la stratégie et du calcul dans chaque comportement et chaque interaction que j'avais avec les gens. Mais merde, en fait, c'est un jeu d'échecs.
Quel a été le déclic alors, du départ ?
Mon corps, la chute de mon état de santé. J'ai commencé à avoir des maladies qui sortent de nulle part, que j'avais jamais eu avant, et à répétition. Des douleurs au dos, au ventre, à la tête, des problèmes cardiaques, j'ai trouble de la vision, enfin tous les 2 jours j'avais une affection particulière. Et en fait c'était vraiment mon corps qui me criait quelque chose. J'ai fini par partir, mais presque 2 ans après en avoir émis le souhait. Et quand on fait le saut, on n'est pas forcément renvoyé à quelque chose de positif, de courageux qu'on a fait. Alors que c'est sans doute l'acte le plus courageux, quoi. Ah, t'es parti, le grand départ de l'entreprise, mais en fait, quelque part, c'est comme si on avait accepté de se faire manger, quoi. Donc il y a une espèce d'aveu d'échec qui est à tout l'inverse de ce qu'on vient de faire. En fait, c'est vraiment, il faut prendre ce moment pour le célébrer comme une énorme victoire, parce que c'est un succès absolu, et à partir de là, construire la suite. Non, c'est une expérience, certes mauvaise, mais qui en fait n'est pas du tout un échec.
David Courpasson, on était en train de le dire pendant qu'on écoutait ce témoignage de cette jeune femme cadre, Ouda. C'est le monde des cannibales que vous décrivez aussi dans votre livre Cannibales en costume, enquête sur les travailleurs du 21e siècle.
Bah écoutez, je ne l'ai pas forcé à le dire, hein, elle a employé le mot elle-même. Son histoire est un abrégé extraordinairement réaliste, je dirais, de 2 choses. La première, c'est que l'univers de l'entreprise, c'est un monde social, donc il y a des codes. Et quand on ne les connaît pas, eh ben on peut se faire très très vite rattraper par ceux qui les connaissent. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas un univers qui est a priori bienveillant, quoi. Autrement dit, les fautes ne sont pas pardonnées, et en particulier les fautes comportementales. Donc c'est un univers dans lequel il faut faire preuve de sens politique avant même d'être socialisé à ça.
Mais ça, c'est récent ou pas, l'importance de la stratégie dans les relations avec les autres au travail, au-delà de son strict job ?
Je ne crois pas que ce soit récent. Non, c'est un phénomène qui, dans l'encadrement en particulier, a pu effectivement s'amplifier, prendre de la magnitude, mais qui existait déjà dans les grandes bureaucraties des années 40-50.
Nathalie Prussiacolin.
Oui, tout à fait. Je pense que ça a toujours existé, mais ça s'est amplifié avec la pression, avec la société actuelle, avec la demande de performance et puis avec la possibilité aussi d'être remplaçable très rapidement. Et je pense que ça a beaucoup joué, le fait d'être remplaçable et de dire « Ok, il y a l'espèce de mode impersonnel, t'es un numéro, si ça ne fonctionne pas, on te met au placard, pas dans le sens de la mise au placard par un supérieur hiérarchique, mais par rapport aux collègues. On peut être mis au placard par rapport à ses collègues, on peut être isolé. »
Plus il y a de pression, finalement, Vincent Binetruy, plus il y a de pression, plus on se dit qu'il faut avoir des relations sociales avec les autres pour éventuellement se protéger. Ça n'est qu'un leurre.
Alors, c'est pas forcément se protéger, mais ce qui est certain, c'est qu'en effet, on est dans un environnement hautement social et où il faut avoir les bons comportements. Alors moi, pour une anecdote, c'est que moi, je me souviens quand j'ai commencé de travailler, donc ça date un peu, on m'a conseillé la lecture d'un livre qui s'appelle L'homme de cour de Balthazar Gracian. Et l'homme de cour, c'était comment
On conseille aussi Machiavel, hein, souvent.
Voilà, alors l'homme de cour, c'est vraiment comment se comporter effectivement, vis-à-vis du roi pour être, en effet, accepté par la cour du roi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, maintenant, je trouve quand même qu'il y a quand même une vraie évolution et que le témoignage d'Ouda, il est terrible et je pense que bien entendu ça existe et ça existe encore et peut-être plus que ce qu'on le croit. Heureusement, je pense que les entreprises ont mis en place aujourd'hui des garde-fous qui permettent de non pas empêcher mais de limiter ce type de comportement-là. Ouda parlait de l'onboarding, donc c'est tout ce processus d'intégration où en effet on devrait davantage expliquer aux collaborateurs qui rejoignent l'entreprise quels sont les modes de fonctionnement. Donc l'aspect culturel de l'entreprise.
Un peu inspiré des écoles et des universités d'ailleurs, les journées d'intégration pour faire partie du groupe, c'est ça.
Mais ça, par exemple, si on prend vous parlez des écoles. Typiquement, en école en France ou en université, on ne va jamais expliquer ça à un jeune diplômé. On ne va pas lui expliquer comment se comporter. Ça ne veut pas dire jouer un rôle, ça ne veut pas forcément dire ça.
Il
ouais,
y a aussi du
bisutage.
En école de commerce, on leur précise. En médecine aussi. En médecine, on vous dit dès
pas
les premières années que vous êtes les élites et que vous devez fonctionner comme ça. Et en école de commerce, c'est exactement
alors, on
pareil.
On leur dit que vous êtes les élites, mais on ne leur dit pas voilà comment il faudrait se comporter.
En école de commerce, vachement.
On leur apprend les hard skills, donc les compétences techniques. Mais ce que recherchent les entreprises aujourd'hui, ce sont les soft skills. C'est tout ce qui tourne autour du comportement.
Le savoir-être.
Et le savoir-être. Ouais. Et dans ce savoir-être, on ne leur explique pas forcément ça.
Vous faisiez une analogie avec la cour royale. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous lis quelques messages d'auditeurs, parce que bien sûr, je rappelle le numéro de téléphone du standard et vous pouvez nous appeler en direct. 33 1 84 22 71 71. On parle de cette drôle de vie au travail au 21e siècle. Mamadou est en Guinée, nous dit le travail est dénudé de tout professionnalisme. Le chef est un petit prince, il est politiquement fort, il se fiche pas mal de l'éthique, il se fiche pas mal de l'administration, il agit comme bon lui semble, il brime et outrepasse ses prérogatives. On travaille dans le stress permanent au point que l'on perd le goût pour le travail. Et puis il y a aussi un témoignage de Kanté qui est à Bamako, qui est fonctionnaire. Je cumule deux fonctions, je suis enseignant dans une classe de 6e année et en même temps le directeur de l'école. Les va-et-vient dans l'école sont vraiment pénibles et en plus je me fais du souci pour mes élèves. J'ai une pression énorme sur les épaules, j'arrive souvent très tôt à l'école pour écrire la leçon au tableau avant que les élèves arrivent. Ça nous rappelle une triste histoire d'une directrice d'école qui s'est suicidée il y a quelques semaines en France. Ou à Sakti aussi qui est à Kinshasa, comment va-t-on réformer le travail pour qu'il y ait une moins grande disparité et injustice de salaire? Moi je suis déçue de la résignation de mes semblables. Le chômage structurel est brandi comme une épée de Damoclès, mais il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo. Et finalement, c'est pour maintenir une charge professionnelle insoutenable. Et puis, écoutez aussi ce voisin qui a posté son message sur WhatsApp, un message audio.
Allô, cette milliard de voisins. C'est Xavier qui vous appelle depuis la République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Je voudrais exprimer ici mon ras-le-bol parce que la situation de travail laisse à désirer. Le travail en République démocratique du Congo n'a plus son sens. Comment voulez-vous comprendre qu'un assistant à l'université ait une année d'impayement et qu'on lui demande de publier des articles? Donc vous avez le stress, vous avez la pression de l'autorité d'une part et de l'autre, vous ne savez pas nouer le deux bouts du mois. Donc ça frise vraiment le burn-out. C'est une situation déplorable.
Voilà, travailler sans salaire, effectivement, ça ne contribue pas à donner du sens à son travail. On accueille aussi un autre voisin qui est également en RDC. Bonjour Cédric.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Bonjour à tous.
Cédric, bonjour. Vous êtes cadre dans une banque. Vous êtes dans le secteur privé à Mbujimaï, c'est ça?
Ouais. Je travaille dans une banque de la place.
Alors, il y a un moment, ça s'est très très mal passé, ça va mieux aujourd'hui?
Oui, on peut dire que ça va déjà mieux, mais non. Sinon, au début, c'est là que c'était très difficile, parce que quand je venais à peine de décrocher mon diplôme, alors j'ai été engagé dans cette banque. Alors, arrivé là, j'ai croisé un chef qui n'avait qu'un bac plus 3, alors que moi, j'avais un bac plus 5. Alors, il y a eu une guerre des générations, une guerre des complexes, quoi. Alors, chaque fois que je commettais une petite erreur, le chef pouvait convoquer toute une réunion, justement pour dire, voilà, le cadre que vous avez engagé, ils ne sont pas compétents, et ils traitaient de tout le mot, et il me mettait trop de pression, il pouvait marcasser tout ça, tout ça. Et puis après, quand j'ai pu avoir la maîtrise du boulot, voilà, il n'avait plus rien à me reprocher. Bon, un peu quand j'étais là, je l'avais même surnommé l'homme sans faute, parce que
l'homme sans
il
faute.
Semblait tout connaître.
Ah oui.
L'homme sans faute, sans erreur, oui.
Oui, c'est invivable, ça, de connaître... travailler avec l'homme sans faute.
Ouais, alors, il connaissait presque un peu tout. Heureusement, après un moment, j'ai venu recevoir récemment une lettre qui me permettait de quitter son service pour un autre service, toujours dans la même banque, et c'est un autre soulagement pour moi.
Ouais. Bon, bah, tant mieux pour vous, en tout cas, hein, ça s'est pas trop mal terminé. Merci beaucoup de nous avoir téléphoné, Cédric, et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Je voudrais qu'on revienne sur le terme pénibilité, qui est un mot qui est quand même très à la mode. Emmanuel Macron a déclaré d'ailleurs au début de ce mois, au moment de la consultation pour la réforme des retraites, qu'il aimait pas ce terme pénibilité parce que bah, finalement, ça donnait un aspect très, très péjoratif au travail. Que disent aujourd'hui David Courpasson, Vincent Binetruy et Nathalie Prussia-Collin, que disent les études à l'heure actuelle sur cette notion de pénibilité, sur la façon dont est vécu le travail, hein, David Courpasson ?
Globalement, l'idée c'est qu'il y a un accroissement de la pénibilité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale. Donc l'idée c'est qu'on est dans une phase là depuis un certain nombre d'années, ça date pas de l'année dernière, mais d'intensification et de brutalisation quand même des rythmes de travail, qui a des répercussions fatales sur l'état psychique et l'état physique des individus au travail. On est dans un moment de très très grande fatigue, de très très grand épuisement, qui n'est pas forcément d'ailleurs retenu en tant que tel dans les études, mais quand on va en entreprise... C'est le constat que moi je peux me permettre de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai des gens.
Secteur privé comme secteur public.
Oui. Alors évidemment, le secteur public, quand on va à l'hôpital, on a en face de soi, enfin, on va rien apprendre à personne.
Ou à l'éducation nationale.
Pour l'éducation nationale, etc. Mmh. Mais dans le privé, les cadres, même s'ils voyagent en première classe et s'ils vont dans des beaux salons d'aéroport, ils y dorment. Effectivement. Mmh. Et le train du matin à 6 heures, il faut voir la tête des gens dans le train du matin. Je l'ai pris ce matin, je le sais, je l'ai vu, j'étais témoin. Mmh. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Mmh. C'est que c'est une pénibilité qui englobe tout l'être, son mental et son physique.
Mmh. Vous observez ça aussi, Vincent Binetruy, du côté des entreprises ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ce que dit David est très juste. Il y a la pénibilité, entre guillemets, visible, qui est la pénibilité des travaux, des travailleurs manuels, des travaux physiques, dans le BTP, dans des métiers plus manuels et plus physiques. Et puis après, vous avez aussi les cols blancs, où cette pénibilité, elle est plus difficilement identifiable et mesurable. Et aujourd'hui, on voit bien le développement de maladies professionnelles. Alors le burn-out, on le connaît depuis longtemps, parce que maintenant, il a été en effet bien développé, on a fait beaucoup d'études dessus. Mais après, il y a eu le bore-out, et puis on parle du burn-out également, qui est la perte de sens, qui fait que le collaborateur est là physiquement au bureau, il fait du présentéisme, c'est ce que disait Ouda tout à l'heure dans son témoignage. Il vient au bureau parce qu'il faut être au bureau, mais en fait, il ne produit pas parce qu'il a perdu toute motivation à produire. Donc voilà, cette pénibilité, elle prend des reflets, enfin, elle prend des aspects divers et variés en fonction des personnes, en fonction des entreprises, en fonction des métiers.
Alors, il y a, on appelle des gens comme vous au secours, hein, c'est-à-dire des sociétés, des consultants externes, qu'on paye d'ailleurs souvent assez cher, hein, c'est pas contre vous que je dis ça, mais je veux dire, l'entreprise a aujourd'hui absolument besoin de se faire aider, il y a une prise de conscience, mais en même temps, est-ce que cette parole, elle se déverrouille ou pas ? En tout cas, en interne, avec des sociétés d'audit comme les vôtres, ou pas tant que ça ?
Alors, nous, on a un rôle, déjà, on n'est pas vraiment conseil, puisqu'effectivement, on fait le constat plutôt que le conseil. C'est-à-dire qu'on aide l'entreprise à se rendre compte de ce qu'elle, a priori, elle fait de bien. Pas toujours, parce qu'elle pense qu'elle le fait bien, mais comme on déroule une méthodologie d'audit et qu'on compare l'entreprise avec ce que font les autres, du coup, d'un seul coup, elle prend conscience de ce qu'elle fait bien et de ce qu'elle fait moins bien. Là où, et c'est pas toujours là où l'entreprise pensait,
justement. Dans sa gestion du personnel.
Dans sa gestion du personnel. Et donc, nous, on va se borner au constat, à l'analyse et à la comparaison avec ce que font les autres entreprises, ce que fait le marché. Ensuite, en effet, elles peuvent se faire accompagner, soit dérouler des plans d'action seules, soit se faire accompagner pour pouvoir progresser.
Pour ça, il faut que vous ayez des témoignages, il faut que les gens parlent.
Alors, nous, on ne fait pas parler les gens, puisqu'on va vraiment auditer les pratiques de façon objective. En revanche, dans les pratiques, on va s'appuyer notamment sur les enquêtes de satisfaction ou d'engagement des collaborateurs. Donc, nous-mêmes, on ne va pas interroger les collaborateurs, mais on va s'appuyer quand même sur les résultats de ces enquêtes d'engagement pour pouvoir faire nos audits. Et en effet, il faut que la parole se libère. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant par les entreprises. C'est-à-dire, de plus en plus, on a les entreprises qui démontrent les meilleures pratiques vont mettre en place très souvent des mini-sondages pour aller interroger leurs collaborateurs tous les 3 mois avec 3-4 questions liées à l'actualité de l'entreprise, liées... Et ça permet en effet de faire parler les gens pour prendre la température. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais en tout cas, c'est une sacrée bonne première étape par rapport à ce qui se faisait il y a encore quelques années, où quelque part, on n'écoutait pas tellement les gens.
La température à l'échelle nationale, c'est plus de 30% des salariés qui déclarent travailler sous pression, 24% qui regrettent, ça c'est en France, qui regrettent ne pas être reconnus dans leur travail, 10% qui reconnaissent accomplir des actes qu'ils désapprouvent. David Courpasson.
Oui, je trouve ces chiffres très faibles. Finalement, par rapport à ce que moi je constate dans les organisations, ce que j'allais dire par rapport à ce que dit Vincent, il a raison sur le fait que les entreprises ont pris conscience de quelque chose. Et ce n'est pas si vieux que ça. En revanche, la question de la souffrance, c'est une question intime et qui ne se met pas en fiche et qui ne se met pas en questionnaire. Donc le problème des questionnaires, c'est qu'on reste à la surface des phénomènes. Et donc quand on va voir les gens, là, on se rend compte que la souffrance, elle est très profonde.
Alors, c'est ce que vous faites en tant que sociologue. Oui, d'aller voir les gens pour qu'ils parlent de leur travail. Vous écoutez des salariés depuis des années. C'est des techniciens supérieurs, des cadres dans des usines chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, armements, centres d'appel, des entreprises d'informatique aussi, des entreprises d'assurance. Ce que vous racontez dans votre livre « Cannibal en costume », c'est qu'ils sont dans la paranoïa totale à l'idée de parler à un sociologue du travail.
Oui, enfin, au bout d'un moment, pendant l'entretien, cette question de l'identité de mon interlocuteur, et pour eux aussi, elle s'efface. Ils ont affaire à un individu auquel ils ont finalement très très envie de dire quelque chose. Donc que je sois sociologue, que je sois psychologue, que je sois consultant, que je sois de droite, que je sois de gauche, au bout d'un moment, très très vite, au cours de l'entretien, c'est quelque chose qui s'efface.
Et pourquoi les gens ont si peur de parler alors que c'est anonyme ?
Parce
que, sur le principe au démarrage quand vous
parce que oui, alors le mot de paranoïa est peut-être un peu excessif, mais l'entreprise est un univers dans lequel il y a une très très grande sophistication des mécanismes de surveillance et de contrôle. Et le premier mécanisme de surveillance, c'est la surveillance par le collègue. Donc le problème qui est derrière, c'est qu'on a du mal à savoir à qui véritablement on peut faire confiance. Et du coup, ça se traduit par des gens qui demandent systématiquement, surtout dans des cas, des moments ou des choses qu'ils ont à raconter qui sont extrêmement brutales ou extrêmement difficiles, y compris par rapport à leur entreprise, par rapport à l'image de leur entreprise, ils demandent un anonymat total. C'est une sécurité supplémentaire qu'on leur accorde bien volontiers.
L'entreprise totalitaire ?
L'entreprise totalitaire, du point de vue de son régime interne de contrôle, indubitablement.
Nathalie Prusiakol.
Je pense que c'est aussi, il y a exactement tout ce que David vient de dire, mais je pense qu'il y a une complexité aussi sur le fait de parler de sa souffrance, c'est en prendre conscience. Et c'est très compliqué d'évoquer qu'en fait on est dans une situation qui serait aussi sclérosée, où on est aussi impuissant et où on va aussi mal. En parler, c'est vraiment prendre conscience de la perte du sens, que peut-être il faut prendre une autre voie, il faut changer. Et surtout prendre conscience qu'on va mal. Et prendre conscience qu'on va mal, c'est pas prendre conscience qu'on va mal soi-même, c'est que tout le système va mal, et essayer de trouver des solutions en interne, c'est très compliqué. Et cette prise de conscience, je pense que c'est la plus difficile.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille vos témoignages sur la façon dont vous vivez le travail. Aujourd'hui, on accueille Jean qui est à Cotonou au Bénin. Bonjour Jean.
Bonjour madame.
Jean, vous êtes enseignant, c'est bien cela ?
Oui, c'est une absolue.
Dans une école privée, dans un lycée privé, vous estimez travailler sous pression à l'heure actuelle ?
Oui, exactement, je travaille sous la pression parce que cette année, les heures qu'on m'a attribuées sont énormes par rapport aux années antérieures. Par le passé, j'avais 16 heures de travail dans la semaine. Cette année, il y a un surplus de 4 heures qui m'agace tout le temps.
Donc, ça veut dire que vous êtes à 20 heures par semaine de cours, c'est ça ?
Exactement. Je suis à 20h de cours par semaine.
Plus la préparation des cours, hein, bien évidemment. C'est pas seulement 20 heures de présence et de travail sur place.
Exactement. Donc, je suis à plus les cours de préparation, plus la préparation du cours avant et l'animation, avant les classes. Oui, donc, et les enfants me posent assez de questions, ils n'ont pas assez de temps pour expliquer totalement le cours à les enfants. Parce qu'il y a tellement de questions qui me sont posées, ouais, que je n'arrive pas à appuyer sur toutes les questions.
Ça veut dire que vous avez l'impression d'être dans une situation où vous ne pouvez pas faire votre travail d'enseignant correctement comme vous savez le faire, Jean ?
Oui, c'est que quand les enfants vous posent assez de questions et vous n'arrivez pas à répondre à tout et à toutes ces questions avant la séance prochaine, ça pose un grand problème. Oui, ça pose un grand problème. Et la séance qui va suivre, les enfants reviennent avec les mêmes questions. Or, vous avez un programme à exécuter durant 9 mois.
Oui.
Vous voyez, surtout les classes des années. C'est une priorité pour nous, c'est une exigence pour nous, c'est une contrainte pour nous. On doit appuyer ce programme avant d'aller. Vous voyez, donc on doit appuyer ça, sinon ça quoi.
Ouais, on voit bien, pression de l'examen, Jean, hein, si j'ai bien compris, et puis également, pas assez d'heures pour enseigner, et donc les questions qui reviennent, vous ne pouvez jamais répondre à toutes ces questions. Donc vous êtes aujourd'hui dans une situation, est-ce que vous diriez que vous êtes dans une situation de conflit éthique par rapport à votre travail, Jean, ou c'est exagéré ?
Bon, est-ce que c'est le truc, en tout cas, je lis tout ça, je vois tout ça. Et je suis pressé, et quand je reviens à la maison, à peine je pense à moi-même. Je reviens parfois à la maison à 22h, c'est pour reprendre le chemin à 6h, et c'est pour revenir. Je vois que je vais répéter ce mouvement pendant 9 mois, sans repos.
Vous demandez si vous allez tenir le coup. Merci beaucoup, Jean. 6h, 22h, c'est sûr que ce sont des horaires extrêmement chargés, même si les heures de cours en tant que telles, il nous le disait, ce ne sont que 20h, mais il y a tout ce qui est autour. Quand quelqu'un nous dit ça, est-ce que ça s'appelle du conflit éthique ou pas, David Courpasson, d'ailleurs ?
Alors, par rapport à la question de la pression, je pense qu'il faudrait préciser une petite chose. C'est pas un phénomène d'aujourd'hui, la pression. Les employés, les travailleurs, dans l'usine du début du XXe siècle, étaient aussi sous la pression. La différence, c'est qu'ils bénéficiaient souvent de structures sociales, de structures de camaraderie, de structures d'entraide, dans lesquelles ils pouvaient partager non seulement leur sentiment d'être sous pression, mais aussi partager des compétences, partager des façons de trouver des solutions, travailler sous forme d'une sorte d'intelligence collective qu'on a aujourd'hui, même si c'est dans tous les discours des politiques de ressources humaines, totalement supprimé de la plupart des politiques de RH. Donc,
mais comment ça a pu disparaître, ça ?
Ça a disparu parce qu'on est entré dans une phase d'individualisation de la gestion. Autrement dit, ce qui intéresse aujourd'hui les grandes entreprises, les petites et les moyennes, c'est de traiter avec des individus et pas du tout avec des collectifs ou pas tellement avec des portefeuilles de compétences. On psychologise en fait la relation de travail.
Notamment avec l'individualisation des carrières et des salaires,
notamment,
par exemple.
Oui, tout à fait.
Vous êtes dans le même constat.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intégration, comment dirais-je, dans les parcours d'intégration, aujourd'hui, les meilleures entreprises ont vraiment structuré et organisé cela de façon très, très formalisée. Et dedans, avec l'attribution d'un mentor, de quelqu'un qui va vous suivre, et où c'est piloté, et on ne laisse pas quelqu'un dans la nature. Donc, il peut y avoir même du coaching qui peut être proposé, etc. Donc, il y a quelque chose de très encadré qui peut faire en sorte que cet esprit de camaraderie... Alors, c'est vrai qu'on a perdu cette naïveté qu'il pouvait y avoir, peut-être, au début du XXe siècle dans les relations professionnelles, mais néanmoins les entreprises, en tout cas celles qui ont le plus structuré cela, ou le plus organisé, eh bien elles se sont efforcées de le faire.
C'est pas de la naïveté, je pense pas en fait. C'était avant une nourriture entre ce qu'on appelait un genre de métier et un style individuel où il y avait encore des personnes anciennes qui réussissaient à partager leurs compétences et à accompagner les nouvelles personnes qui arrivent. Aujourd'hui, quand tu parles de coaching, c'est extérieur, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour intervenir en entreprise.
Ça peut être interne, ça peut être du coaching interne.
Oui, mais globalement, vous estimez qu'il y a une mise en concurrence.
Il y en a très peu,
ça a énormément changé.
C'est la mise en concurrence des uns et des autres qui
règne davantage. Exactement ce que disait David, on est dans l'individualisation et on n'est pas du tout dans cette espèce d'esprit d'équipe où on partage des compétences, on partage un savoir-faire.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Rachid nous appelle de Paris. Bonjour Rachid.
Bonjour Emmanuel, bonjour à vos invités. Ouais, j'écoute l'émission qui est très intéressante. Et moi, je voulais juste rebondir sur le propos de l'intervenante qui me paraît extrêmement important. Sur l'importance du déni. Alors rapidement, parce que je n'aime pas raconter ma vie, ma compagne est DRH dans un grand groupe et elle est littéralement en burn-out, moi je le vois, des manifestations telles que je m'endors à 8h30, je suis quasiment incapable de manger, etc. Et quand vous lui dites, et j'ai vu ça chez beaucoup de gens, on vous dit toujours « mais non, ça va, mais non, je vais y arriver, mais non, il n'y a pas de problème ».
Parce qu'elle-même est en charge, parce qu'elle-même est en charge du personnel, donc si elle craque…
Exactement, tout à fait. Et ce qui est intéressant, alors par rapport aux contraintes, on parlait effectivement d'individualisation, le fait qu'on ait des outils qui permettent de travailler le samedi et le dimanche, ben, évidemment, elle travaille le samedi et le dimanche, mais moi ce qui me frappe, et là où je trouve que l'émission est vraiment importante, et c'est un point à souligner, c'est que le fait que les gens ne formulent pas qu'il y a un problème… que ce n'est pas normal, que ce n'est pas ça la normalité du monde du travail, fait qu'au final, ben, c'est un discours qui est... ça concerne les autres. Il y a des gens malades, mais moi, je ne suis pas concerné. Et moi, c'est ce que je trouve le plus difficile. Et d'un mot pour terminer là-dessus, je suis avocat, hein, donc je travaille sur profession libérale. Et quand je vais dans des entreprises, en 5 minutes dans un rendez-vous, je devine les gens en burn-out, à des tas de signes. Certains se mettent à pleurer, d'autres sont fatigués. Ça se ressent vraiment et ils ne le formulent pas non plus parce qu'on ne veut pas souffrir. Enfin, tout ce qui a été dit, que je partage parfaitement.
Et pourtant, vous n'êtes pas médecin. Merci beaucoup, Rachid, de nous avoir appelé. Un mot de commentaire là-dessus ?
Non, un accord de... Enfin, je ne peux pas mieux dire que ce qui a été dit. Le problème qui est derrière, c'est aussi, je crois, la fin de la sollicitude vis-à-vis du collègue. Moi, je décris ça dans le bouquin comme la montée d'une sorte d'indifférence. C'est peut-être un peu fort, mais je crois que ça commence à devenir une sorte de consentement au meurtre, en quelque sorte, et au meurtre de l'autre. Parce que quand on dit burn-out, brown-out, etc., on emploie du vocabulaire qui est apparemment inoffensif, mais derrière... Il y a des gens qui sont tout simplement en train de crever, quoi.
Alors, votre livre, Cannibale en costume, il a enquêté beaucoup auprès de personnels qui travaillent, qui vivent alors des conflits éthiques puissance 10, hein, notamment dans des entreprises qui fabriquent des pesticides. On ne nommera pas l'entreprise, mais tout le monde la reconnaît, mais ça peut être aussi dans la chimie. Voici ce que dit un des salariés. « Je fabrique cette saloperie qu'on appelle le G. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Je suis dans le process qui produit ça. Je connais ses effets. Je connais ce qu'il fait sur les plantes, ok, mais aussi sur les gens, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde en interne sait qu'on fabrique une saloperie depuis des années, on a beau dire le contraire, dans un tas de rapports, c'est la vérité, etc. etc. » Et quand vous demandez à tous ces salariés finalement comment ils vivent cette situation, parce qu'après tout, ils seraient libres de quitter l'entreprise, comment est-ce qu'ils vivent ce conflit interne ?
Ils le vivent véritablement comme un conflit. C'est-à-dire qu'ils développent un sentiment ou une attitude que je qualifie de honte rationnelle ou de honte pragmatique. Ils ont fondamentalement le sentiment d'être coupables de quelque chose. Mais en même temps, comme dirait l'autre, leur argument final, c'est de dire autant que ce soit quelqu'un comme moi qui est un bon professionnel, qui connaît le boulot, qui a un sens justement moral, qui a des raisons précises de faire ce travail et pas un autre travail, plutôt que quelqu'un qui le ferait dénué, en quelque sorte, du sens moral ou de la conscience de faire quelque chose de mal. Il y a de la honte derrière, il y a de la culpabilité, mais qui est aussi rationalisée pour tout simplement pouvoir continuer à bosser, quoi.
En même temps, c'est l'individualisation, vous le disiez, qui prime, mais en même temps, dans ces entreprises-là, alors c'est le cas aussi dans le domaine de l'armement, il y a un salarié qui vous dit « Non, la question éthique, c'est une grande question. Vous savez, on passe de plus en plus de temps entre collègues à en parler. » Et alors là, vous lui demandez « Mais parler de quoi au juste ?» Eh bien, du fait qu'on vend des armes à des roitelets, des dictatures hyper blindées de fric qui vont s'en servir pour asservir leur peuple. Vous voyez, c'est pas politiquement, on n'est pas politiquement inconscient. C'est quand même des entretiens qui sont...
Oui, les entretiens sont assez fascinants, je suis bien d'accord avec vous, j'en suis encore fasciné aujourd'hui. Et la chance même de pouvoir se retrouver en face de gens qui vous racontent ça. Ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que dans les couloirs intimes, dans les moments intimes que certains salariés peuvent partager, on parle souvent des séminaires d'intégration ou des séminaires de formation pour les cadres, ils trouvent quand même des moments de respiration collective ou à deux, pour parler du mal qu'ils font. Ça, c'est le cas d'une entreprise d'armement. C'est quand même un cas extrêmement singulier. J'ai aussi des entretiens dans le monde aujourd'hui de l'automobile, en particulier des entreprises qui étaient qualifiées par le Dieselgate. Les gens trouvent des moments pour parler ensemble de ces choses-là, mais ce sont des moments de respiration qui restent des parenthèses et qu'ils referment très vite pour repartir au boulot. Donc ça ne change pas le problème, ça ne change pas leurs sentiments, ça ne change pas, mais je dirais, leur solitude face à ce conflit éthique et à ce drame éthique qu'ils vivent quand même fondamentalement tous les jours.
Tout le monde referme la parenthèse toujours à l'extérieur. Je pense qu'il y a un facteur aussi qui est à prendre en compte dans ce qui se passe à l'intérieur du travail. Il y a aussi l'extérieur, le jugement de la famille, le conjoint. On vient d'entendre cet avocat qui vient de parler de sa compagne. C'est lui qui appelle, c'est pas elle.
D'autant plus que tous ces problèmes maintenant sont très médiatisés finalement, de ce que font certaines entreprises. La vie des entreprises aujourd'hui est très médiatisée. Donc les salariés ne peuvent plus rester sous la couverture radar d'une certaine manière.
Tout à fait.
Ils sont porteurs à la fois de leur propre identité, de leur propre culpabilité ou de leur propre sens éthique, et ils sont porteurs aussi de l'identité de leur entreprise. C'est particulièrement vrai chez les dirigeants quoi, ou chez les cadres. Et effectivement, ils conçoivent aussi de la culpabilité quand ils voient aux informations du soir le nom de leur entreprise stigmatisé, comme ça, pointé du doigt par des médias. Et ça aussi. Fondamentalement, ils en souffrent.
Qu'est-ce qui va se passer avec les nouvelles générations qui sont déjà là, d'ailleurs, au travail? Est-ce que la nouvelle génération, la génération des 25-30 ans, sera d'accord pour plier aux injonctions paradoxales, aux ordres, pour accepter la perte de sens malgré le besoin d'argent?
Alors, clairement, non. Clairement, non. Je pense que là où on pense que la nouvelle génération est différente des autres en disant mais ils sont plus en demande de quête de sens, etc. En fait, je pense que ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a tous toujours eu ça, on a tous toujours eu ces mêmes besoins-là. À cette grande différence-là, c'est que là où le marché de l'emploi avant pouvait être un frein au fait de se dire non, je ne suis pas en accord avec mon entreprise, donc je prends la décision de partir, etc. Et ce qu'on ne faisait peut-être pas dans les générations d'avant, la nouvelle génération aujourd'hui va se dire, c'est pas grave, je ne suis pas en accord, je pars, je vais rester 2 mois ou 3 mois sans une activité, j'en assume les conséquences d'un point de vue financier, mais en effet, cette quête de sens va faire en sorte que je suis prêt à prendre ce type de décision-là et je ne resterai pas dans un environnement qui ne me convient pas. C'est ça la différence.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais vous faire entendre aussi un message qui a été posté par une voisine, un peu plus positive peut-être, sur la liberté du choix. Écoutez, elle a posté sur WhatsApp.
Bonjour les voisins, bonjour les voisines. Je m'appelle Diomondé, j'envoie ce témoignage depuis Accra où je suis en immersion linguistique. J'ai longtemps travaillé à Abidjan et je fais un coucou au passage à tout le monde. Ils me feront bientôt, j'espère. J'ai eu la chance de m'épanouir véritablement à travers un métier. J'ai été commerciale. C'est dans le domaine de l'hôtellerie et puis malheureusement j'ai rencontré quelques difficultés d'ordre relationnel. J'ai décidé donc de respecter une procédure de départ qui s'est bien passée et je remercie tout le monde. Ce que je voudrais dire, c'est que la perte de sens aujourd'hui grandit parce que très peu de personnes ont la capacité de choisir le travail qu'ils veulent faire. Il faut bien vivre, donc les gens font un métier et la perte de sens peut se retrouver dans ce qu'on fait. Donc à un moment donné, c'est de s'interroger sur ce qui compte le plus pour soi et pourquoi pas de s'offrir la chance de faire un métier dans lequel on s'épanouit. Donc moi j'ai choisi, en venant apprendre des langues, toujours dans la continuité des voyages et donc des rencontres, j'ai décidé parallèlement de créer un emploi et je suis donc aujourd'hui designer. Merci RFI. À bientôt.
Bon, alors bien sûr, tout le monde n'a pas le luxe de changer de métier. Je voudrais aussi qu'on termine sur ce voisin qui nous a posté ce message, Idoumou, qui est à Nouakchott, en Mauritanie, et qui cite Voltaire, Candide. « Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. » Qu'est-ce que ça vous inspire, David Courpasson ?
Que moi, j'ai pas besoin de travail pour tout ça.
Pour être éloigné de ces trois problèmes.
Pour être éloigné de ces 3 problèmes.
Bon, ça sera le mot de la fin. David Courpasson, cannibale en costume.